Laudetur Jesus Christus.
Se souvenir de la date de son baptême, anniversaire de notre naissance dans l'Esprit de Dieu avant l'Angélus, le Papa a commémoré hier la solennité du baptême du Seigneur et baptisé 21 nouveau-nés dans la chapelle Sixtine. François s'est aussi dit proche spirituellement des habitants de Los Angeles qui luttent contre les incendies depuis près d'une semaine. 24 morts et des accusations politiques, tout azimut de la part du président élu, nous ferons le point. Avant de partir en Syrie où les combats de la nouvelle armée nationale syrienne s'échinent à récupérer une zone kurde. Reportage au quartier général. 3 jours de manifestations ininterrompues prévues au Mozambique où l'opposition aux vainqueurs contestés de la présidentielle ne faiblit pas. Analyse d'une grave crise politique émaillée de tensions et de répression ayant fait des dizaines de morts dans notre dossier.
Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
Bonjour, 21 nouveau-nés baptisés sous la voûte de la chapelle Sixtine, traditionnelle messe du baptême du Seigneur présidée par le pape hier au Vatican. Dans son homélie improvisée comme à l'accoutumée, l'évêque de Rome a estimé que les bébés recevaient en ce jour le plus beau des cadeaux, le cadeau de la foi. Avec la solennité du baptême du Seigneur, c'est donc achevé dimanche le temps de Noël. Avant de réciter l'Angélus, François a invité chacun à réfléchir à son propre baptême comme une date de naissance dans l'esprit de Dieu, Alexandra Sirgon.
Con l'anima nuda e i piedi nudi.
C'est avec l'âme et les pieds nus que le peuple est humblement allé se faire baptiser par Jean, a expliqué François, en citant les paroles de l'hymne liturgique du jour. Et lorsque Jésus reçoit le baptême, c'est l'épiphanie de Dieu qui non seulement révèle son visage dans son Fils, mais fait entendre sa voix en disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Le Père se révèle à travers le Fils et établit un lien privilégié pour entrer en dialogue et en communion avec l'humanité.
Per entrare in dialogo e in comunione con l'umanità.
Alors, a poursuivi le Saint-Père, demandons-nous, nous sentons-nous aimés, accompagnés par Dieu ? Sommes-nous capables de reconnaître son visage en Jésus et dans nos frères et sœurs ? Le pape François a conclu en invitant les fidèles à se souvenir de la date de leur baptême et à la célébrer comme un nouvel anniversaire, celui de sa propre naissance dans l'Esprit de Dieu.
Et festejar la data come un nuovo compleanno. Quella è la nascita propria nello Spirito di Dio.
Alexandra Sirgan. Après l'Angélus, le pape a donc exprimé sa proximité envers les victimes des incendies qui dévastent depuis mardi dernier Los Angeles. Ce samedi, il faisait parvenir à l'archevêque de la Cité des Anges californienne un télégramme de condoléances. Le bilan est en effet monté à 24 morts, selon les autorités de la deuxième ville américaine qui doit accueillir les Jeux Olympiques dans 3 ans. Des dirigeants californiens visés par le président élu Donald Trump pour leur supposée incompétence. Entre Donald Trump et le gouverneur de Californie, la querelle n'est pas nouvelle, mais à une semaine de son investiture à la Maison-Blanche, le président élu a choisi de la rouvrir en plein milieu d'une crise inédite. Aux États-Unis, la correspondance de Loïc Loury.
En novembre 2019, alors que la Californie brûlait, Donald Trump, président, avait attaqué Gavin Newsom, déjà gouverneur de l'État, lui reprochant un boulot épouvantable dans la gestion des incendies. 5 ans plus tard, rien ou presque n'a changé. Donald Trump sera bientôt de retour à la Maison-Blanche et il n'a visiblement aucune intention de s'amender, car au-delà du bras de fer permanent entre deux figures politiques incompatibles, le milliardaire s'est illustré à de nombreuses reprises en politisant les crises les plus dramatiques, l'ouragan Maria à Porto Rico en 2017, le Covid, ou tout récemment l'attentat de la Nouvelle-Orléans perpétré par un migrant sans papier, avait-il suggéré sans aucune preuve. Et cet opportunisme politique n'est pas sans conséquence. Gavin Newsom va notamment devoir marcher sur des œufs dans les prochaines semaines, car c'est à Donald Trump et à un congrès républicain que son État pourrait demander des centaines de millions de dollars lorsque les incendies de Los Angeles seront éteints. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Le président américain sortant ayant annulé sa visite originellement prévue au Vatican ce week-end en raison des incendies, s'est tout de même entretenu par téléphone avec le pape ce samedi. Joe Biden a remis au souverain pontife argentin la médaille présidentielle de la liberté. Le nonce aux États-Unis, le français Christophe Pierre, a symboliquement reçu donc au nom du pape cette distinction déjà conférée par George W. Bush à Jean-Paul II. Le président sortant américain mécontente certains milieux d'affaires nucléaires américains et japonais. Selon le Premier ministre nippon, inquiet du rejet du rachat de US Steel par Nippon Steel, deux géants de l'acierie, le président démocrate a souhaité bloquer l'opération, craignant pour la sécurité nationale. Le groupe US Steel, en difficulté, avait lui-même décrit son rachat par les Japonais comme un moyen de combattre la menace concurrentielle de la Chine. Une première depuis 6 ans, le ministre japonais des Affaires étrangères se rend en Corée du Sud ce lundi, malgré la crise politique en cours sur la péninsule coréenne. Les relations historiquement tendues doivent se resserrer entre les deux États face à la Corée du Nord qui les inquiète. Selon le renseignement sud-coréen, 300 soldats nord-coréens dépêchés en Ukraine auraient d'ailleurs été tués. Deux nord-coréens sont actuellement prisonniers et interrogés à Kiev, annonce le président ukrainien, affirmant être prêt à un échange de détenus nord-coréens avec des combattants ukrainiens incarcérés en Russie. Au Proche-Orient, 37 personnes sont mortes en Syrie la semaine dernière lors de nouveaux combats à proximité de Manbij, autrefois gouvernée par les Kurdes des forces démocratiques syriennes. La zone a été récupérée par les factions pro-turques de l'ANS début décembre. Ces dernières enchaînent depuis les offensives vers l'Est afin de récupérer la totalité de la poche kurde. Reportage sur place de Manon Chaplin.
À l'entrée de leur quartier général, les factions de l'armée nationale syrienne se relaient. C'est ici que les combattants se retrouvent avant de partir sur le front, quelques kilomètres plus à l'est, à proximité du barrage de Tishrin. Un groupe se prépare à partir, monte à l'arrière d'un pick-up transformé en canon anti-aérien. Abu Djouma, leader d'une faction de 200 hommes.
Hier, nous avons pris environ 5 villages et y avons établi des positions. Les combats étaient violents, mais dans quelques jours, si Dieu le veut, nous passerons de l'autre côté, à l'est de l'Euphrate. J'ai été blessé, mais je préfère cacher ma blessure. Pour qu'elle ne soit pas visible aux yeux des autres, il faut que le moral reste bon.
À l'abri, ce combattant pense ses plaies avec un bandage, puis jette un regard vers le ciel. Des avions de reconnaissance turcs qui font des allers-retours, mais le sujet est sensible parmi les troupes qui feignent de ne pas recevoir de soutien turc.
Ni la Turquie ni personne ne nous soutient. Personne ne nous a donné ni même une balle. Nous nous soutenons nous-mêmes grâce aux efforts de nos jeunes et aux munitions et armes que nous saisissons.
La semaine dernière, la Turquie, qui accuse les forces démocratiques syriennes d'avoir des liens avec les séparatistes armée kurde sur son sol, a menacé de lancer une opération militaire dans la zone. Au total, près de 322 personnes sont mortes depuis le début des combats il y a un mois. À Manbij, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Au Liban, voisin désormais doté d'un président, le maronite Joseph Aoun, les consultations démarrent aujourd'hui pour trouver un premier ministre sunnite. Parmi les noms évoqués, Najib Mikati, déjà aux affaires de façon intérimaire, le député anti-Hezbollah Fouad Makhzoumi ou le juge président de la Cour internationale de justice de La Haye, Nawaf Salam. L'accord de paix entre l'Éthiopie et la Somalie se confirme. Les deux pays de la Corne de l'Afrique ont décidé de rétablir leurs relations diplomatique à l'issue d'une visite samedi à Addis Abeba du président somalien. Les relations s'étaient tendues il y a un an après la signature par l'Éthiopie enclavée dans les terres d'un accord pour un accès à la mer Rouge avec le Somaliland, région séparatiste de la Somalie. Un week-end de bonnes nouvelles pour l'Éthiopie. Addis Abeba a lancé officiellement sa bourse pour attirer les investisseurs. Nouvelle étape de la libéralisation voulue par le Premier ministre Abiy Ahmed dans un pays à l'économie encore largement administrée. Augustine Passy.
Vendredi, le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré la bourse éthiopienne, l'Ethiopian Securities Exchange, dite ESX. C'est une première depuis la chute de l'empereur Haïlé Sélassié, remplacé en 1974 par le régime communiste du Derg. 9 ans plus tôt, l'Éthiopie avait été le deuxième pays du continent à se doter de sa bourse, l'Addis Ababa Chadeling Group, où 15 entreprises étaient cotées. Après le Derg, il a fallu peu à peu rebâtir le secteur privé. Et en arrivant au pouvoir en 2018, Abiy Ahmed a mis un coup d'accélérateur à cette libéralisation de l'économie, avant de se lancer dans une meurtrière guerre dans la région du Tigré entre 2020 et 2022. L'ouverture de l'ESX n'en reste pas moins une grande réussite, m'expliquait l'analyste financier Mered Fikire Yohannes, précisant qu'une 50aine de sociétés, à la fois nationales et étrangères, devraient rejoindre cette bourse d'ici 5 ans. Cette éclaircie s'ajoute au déblocage d'un prêt de 3,4 milliards de dollars obtenu auprès du FMI après que le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique ait accepté fin juillet de faire flotter sa monnaie. Ces fonds doivent permettre de remédier à la pénurie de devises étrangères ou encore de reconstruire les zones dévastées par le conflit. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Un mois après le cyclone Chido, la nouvelle tempête Dikeledi se dirige vers le Mozambique après avoir touché Madagascar et Mayotte où les habitants ont passé une deuxième nuit confinés. Le resteront jusqu'à lundi soir en raison donc d'une alerte rouge. Hormis la menace de la tempête tropicale, le Mozambique a déjà fort à faire avec ses tensions politiques internes. Depuis le 9 octobre, date de la dernière élection présidentielle, le pays vit sous haute tension. C'est Daniel Chapo, le candidat du Frelimo, parti au pouvoir depuis un demi-siècle et l'indépendance du pays, qui a remporté le scrutin, marqué par de nombreuses irrégularités. Son principal opposant, Venancio Mondlane, a appelé hier à une grève nationale, alors que le nouveau chef de l'État doit prêter serment le 15 janvier et que le nouveau au Parlement s'installe aujourd'hui. La crise post-électorale a été émaillée de manifestations réprimées par la police et la situation semble au point mort. Analyse ce matin de ce malaise et des fractures de la société mozambicaine avec Éric Maurier-Genoux.
L'élection même s'est bien passée, mais ce qu'on a vu principalement, c'est des grosses fraudes lors du comptage des élections. Et ceci était vu par des observateurs nationaux comme les observateurs internationaux de l'Union européenne, des États-Unis, des pays lusophones, et donc a été condamné. Et les partis d'opposition ont décidé de faire un recours, et alors que ce recours allait être soumis, les avocats de l'opposition du Podemos et de Venancio Mondlane se sont fait assassiner dans la rue à Maputo, ce qui a créé une émotion très forte dans le pays, qui a amené à des manifestations le jour suivant, manifestations qui ont été réprimées. Et donc, il y a eu un cycle comme ça d'un engrenage qui s'est mis en marche, de manifestations qui se sont répétées et qui sont devenues de plus en plus graves parce que le gouvernement a engagé dans la répression. Les manifestations se sont aggravées, les gens ont été radicalisés par les manifestations, le discours de l'opposition, en particulier de Venancio Mondlane, a commencé par contester les élections, ensuite parlé d'aller prendre la présidence et changer de régime. Et je dirais qu'en décembre, la situation s'est encore aggravée dans la mesure où une partie de la population demande une réforme de la terre, la fin de cet état, le départ du Frelimo, et presque une révolution sociale.
On a le sentiment que cette séquence a ravivé un peu les fractures du Mozambique, à savoir une grave crise sociale, la répartition des richesses inégale. C'est un peu l'image que l'on peut avoir de ces maux du pays qui refont surface actuellement.
Tout à fait, c'est des problèmes structurels de la société mozambicaine et que les partis d'opposition, petit à petit, avaient cessé de parler d'eux et de faire des revendications. Et Venancio Mondlane a réussi à capter cette dissatisfaction de la population. Et on se retrouve à la situation actuelle où les partis d'opposition vont discuter avec le président, et Venancio Mondlane devient le seul représentant des populations qui sont marginalisées et qui demandent un changement profond dans la manière dont le gouvernement agit au Mozambique.
Dès son retour à Maputo, Venancio Mondlane a dit qu'il était prêt à discuter avec le Frelimo, le parti au pouvoir. Est-ce qu'il faut imaginer des discussions, des négociations?
La discussion, effectivement, est de savoir s'il va y avoir des négociations. L'impression, c'est que le parti au pouvoir espère faire cela une fois que son président a été mis en place, comme ça on ne pourra pas remettre en question la victoire du Frelimo. Et je pense que la difficulté pour Mondlane et pour l'opposition est d'avoir des concessions justement avant le 15 janvier, la date de l'investiture du président. Mondlane a dit clairement qu'il ne voulait pas une position pour lui-même, il ne cherche pas à être ministre, il veut résoudre des problèmes fondamentaux. Donc ça lui donne une force particulière, mais ça rend aussi sa tâche difficile dans la mesure où comment est-ce que vous résolvez des problèmes structuraux avec certaines garanties avant l'investiture ou alors après l'investiture où il aura perdu son levier et son influence.
Que représente Venancio Mondlane pour ses partisans et pour le Mozambique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils attendent de lui?
Alors, c'est tout le problème, c'est que Venancio Mondlane est un excellent politicien, c'est aussi un pasteur évangélique et il a des tons très messianiques qui ont créé des attentes énormes et ça risque d'être difficile, en fait, de voir ses attentes réalisées, le risque étant pas simplement qu'il lâche, mais qu'ensuite ses mécontentements continuent et se positionnent autrement avec d'autres formes d'opposition, donc c'est assez risqué. Donc tout le monde espère évidemment que des négociations aient lieu et qu'une réforme significative de l'État et de la manière dont le pays est gouverné puisse éviter quelques problèmes.
Interrogé par Olivier Bonnel, le chercheur spécialiste du Mozambique à la Queen's University de Belfast en Irlande du Nord, Éric Maurier-Genoux était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre écoute. Prochaine édition à 13h, heure de Rome. Excellente journée.